Cap à Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap à Cap avec...
Célia Campion.
Après ce que nous appellerons les lois travail, le président Macron et son gouvernement entendent s'attaquer à la réforme de notre bastion très français et très symbolique, la SNCF. Ils le font à l'occasion de la remise du rapport Spinetta qui fait le tour de la question et préconise un certain nombre de mesures, sans pour autant chiffrer le coût d'une éventuelle réforme. Il s'agit d'un dossier d'abord historique mais ensuite touffu et d'une grande complexité, une espèce de millefeuille qui va être complexe de faire évoluer. Bien sûr, il y a la couche de base, le statut des cheminots, un statut protecteur certes, mais aussi, et c'est la contrepartie, coûteux. Imaginez en 1920, donc une petite centaine d'années, au moment de la machine en vapeur, lorsque la SNCF n'existait pas et qu'il fallait attirer des salariés pour la créer. Réformée en 1950, il paraît à présent quelque peu dépassé en ce qu'il surprotège tous les salariés de l'entreprise alors que la pénibilité du travail, d'une part, n'est pas partagée par tous, et que d'autre part, il existe dans ce pays bien d'autres métiers aussi pénibles, voire plus, qui ne bénéficient pas de pareils privilèges au surplus constamment réévalués. Autre couche du millefeuille, et non des moindres, le coût de construction et d'exploitation des lignes TGV. Il a été entièrement supporté par la SNCF, là où, en tant qu'il s'agit d'aménagement du territoire, l'État aurait dû assumer ce financement. De là vient la majeure partie de la dette de la compagnie, une dette qui s'est considérablement accrue sous la présidence Sarkozy, puisque celui-ci s'était mis en tête de créer 4 lignes TGV, vous rendez compte, 4 lignes TGV, durant sa présidence, une folie des grandeurs irresponsable, dont nous payerons le prix pendant des années. Et une irresponsabilité accrue par le mode de financement choisi, à savoir le partenariat public-privé, qui revient aujourd'hui, et pour des années, à faire payer de considérables péages à la SNCF qui ne les a même pas négociés. Bouygues, Vinci et Fage en sont les heureux bénéficiaires, au détriment bien sûr des contribuables que nous sommes. Autre problématique, le fret. Un échec absolu puisque celui-ci a quasiment totalement disparu de nos lignes, place aux camions avec les coûts écologiques, humains et matériels que vous pouvez imaginer. Lorsqu'il y a 10 ans, Guillaume Pépier, où il était déjà là, a tenté une réforme de ce fret afin de le sauver, de le développer. Alors même qu'un millier de conducteurs étaient volontaires pour l'assumer, la CGT et Sudrail se sont mis en grève, provoquant le retrait de la réforme et la catastrophe que l'on peut constater aujourd'hui. Autre dossier, les petites lignes. Il faut savoir que la société d'exploitation NCF Mobilité, SNCF Mobilité se concentre essentiellement sur les lignes TGV et sur les liaisons entre les grandes métropoles desservies par TER. Les petites lignes trains ou cars, c'est selon, ont été refilées, si vous me passez le mot, aux régions, qui se font facturer par la SNCF des prestations plus que conséquentes. Je vous renvoie là-dessus à la dernière livraison du Canard Enchaîné et à son article très éclairant sur cette question. Ces petites lignes constituent politiquement un point sensible en tant qu'elles participent à l'aménagement du territoire, ce que le gouvernement a fort bien compris puisqu'il a jeté beaucoup de lest sur cette question, qui permet aussi incidemment de se poser la question de savoir si un service public doit être rentable, mais à cela, c'est une autre histoire et ce sera pour une autre chronique. La SNCF a augmenté son chiffre d'affaires, multiplié son bénéfice par 2,3. Elle doit faire cependant face à une dette de 46 milliards d'euros. Et tout cela au moment où elle doit se préparer à l'ouverture à la concurrence, fin 2019 pour les TER et fin 2020 pour les TGV. Réussira-t-elle sa mutation, comme l'a fait la Poste il y a 10 ans? Eh bien, nous verrons. Mais il y a du travail. Une nouvelle fois, Macron veut se servir des ordonnances pour y parvenir. Curieux lorsqu'on a une majorité pléthorique et une assemblée à sa botte, comme le disait le regretté constitutionnaliste Guy Carcassonne, et je le cite, « Pour faire de bonnes lois, l'on n'a pas trouvé mieux que le Parlement », fin de citation. La bataille du rail risque cette fois-ci d'être une bataille d'opinion. Cela étant dit, nous recevons ce jour sur Occitanie Première une très jeune femme, mais qui pour être jeune n'en a pas moins cumulé une belle expérience comme chef d'entreprise et qui surtout fait montre d'une grande créativité, comme vous allez pouvoir le constater. Bonjour Célia Campion.
Bonjour.
Et bienvenue sur Esprit Occitanie. Oui, c'est aussi l'autre nom d'Occitanie première. Et puis merci à ma camarade de micro, Irène Finkel, d'être avec nous ce soir. Vous l'entendez sur cette antenne dans Les Caprices d'Irène et Ainsi va la vie. Mais elle est venue me supporter.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, Célia Campion, qu'est-ce qui vous fait courir ?
Oh, la vie, tout simplement. Beaucoup de choses à faire et beaucoup d'envie surtout, je pense.
Parce que vous avez quand même une volonté d'entreprendre qui est assez surprenante chez une femme aussi jeune. Parce que vous êtes jeune, on va voir, vous avez à passer d'une vieille, si je puis dire, disons d'une plus âgée, d'une plus mûre, ce qui n'est pas votre cas. Alors vous avez, pourquoi vous voulez tout entreprendre ? Vous voulez attaquer un peu tous azimuts, plein de secteurs ?
J'ai eu la chance d'être élevée par deux parents entrepreneurs. Et
Vous êtes tombée dedans quand tu étais petit.
Probablement,
vous n'êtes pas ressorti comme Obélix. Mais donc c'est bien ce que je pensais, c'est ça. C'est une tradition familiale.
C'est ça. C'est ça. J'ai eu la chance d'avoir deux parents qui m'ont...
On en a tous deux, hein, je vous rassure.
C'est surtout ceux-là qui m'ont laissé croire en mes rêves, qui m'ont informé à 16 ans que les frontières n'existaient pas et qu'on avait tous les idées qu'on voulait avoir.
Alors vos rêves, c'était quoi à 16 ans ?
Ouf, conquérir le monde ? Non, c'était probablement avoir un élevage de chevaux, parce que je suis passionnée par les chevaux. Et réussir ma vie dans, on va dire, dans toutes les grandes lignes qu'on peut avoir quand on a 16 ans.
Bon, alors ce que je sais, vous n'avez pas d'élevage de chevaux.
Mais non.
Hein, mais ça peut venir. Il y en a un qui dit que pour réussir sa vie, il faut avoir une montre de je ne sais plus quelle marque, que je ne citerai pas d'ailleurs. À 50 ans, bon, l'élevage de chevaux, ça peut bien attendre encore un peu.
Les 40,
ouais. Oui, voilà. Donc vous êtes loin, très loin. Hein, on n'a même pas atteint l'autre dizaine, donc c'est dire. Alors, vous avez débuté, vous avez fait des études un peu à Toulouse.
Ah non, pas du tout.
Non, pas du tout. Chalon-sur-Saône, oui, c'était très loin de Dijon, Chalon-sur-Saône. Hein. Oui. C'était les résidences familiales.
Alors, on a passé une quinzaine d'années sur Paris avec mes parents. Et
de là vous vient cet accent.
C'est ça. Pas, hein, pardon les Toulousains, désolé.
On n'a pas pu vous défaire.
C'est ça. Et donc, on a terminé à Chalon suite à l'entrepreneuriat de mon papa et qui a développé une belle activité là-bas de négoce de pneumatiques. Et donc, j'ai passé mon bac à Chalon-sur-Saône pour ensuite avoir la possibilité de partir assez rapidement en Italie.
Et le pneu, ça ne vous a pas branché ?
Eh bien, en ayant fait les inventaires dans les pneus de tracteur, je vous assure que ça ne me branche pas des masses, non. Ça, c'est sûr.
Donc, départ en Italie. Ah bon, vous êtes allé dans un endroit qui, effectivement, m'est cher, mais à vous aussi. Vous êtes allé à Venise.
C'est ça.
Alors, pourquoi Venise ? Parce que vous n'aviez pas d'attache italienne.
Ah non, par le plus grand des hasards, on a fait un week-end de 4 jours avec mes parents sur la Sérénissime. Et je ne suis jamais repartie. Ils m'ont envoyé deux cartons DHL avec mes quelques affaires que j'avais là-bas. Et donc, j'ai...
Et vous parliez italien ?
J'ai fait italien en langue vivante au collège, comme tout le monde, un petit peu d'italien aussi au bac. Et je me suis plongée là-dedans parce que j'ai un papa qui est passionné par l'Italie. On a réussi à voyager dans beaucoup, beaucoup de régions là-bas. Donc déjà une petite connaissance des dialectes et de la manière de parler. Et arrivé à Venise... Et ben
vous avez quel âge à Venise quand vous y arrivez ?
17.
Bon, vous êtes toute jeune.
Ah bah oui.
Alors qu'est-ce qu'on fait à 17 ans à Venise comme ça ? Votre père vous a dit oui, ça y est, tu peux y aller. Ouais. Vous étiez mineur.
Ouais.
Il vous a lâché tranquillement.
Alors
comme
il
ça.
M'a confié à un couple de commerçants qui avait besoin d'une petite main pour vendre des. Vous savez, à Venise, il y a tout le verre de Murano. Mmh. Et donc je parlais français, anglais, italien.
Il n'y a pas que le verre de Murano, malheureusement, parce que non, les Chinois ont un peu noyé avec leur verre de merde. Soyons clairs, voilà. Mais bon,
il
n'y
en a
ça.
Plus du tout du beau. Il faut vraiment aller dans certaines moulinerie, mais c'est... Bon,
ah, redites-nous, vous le dites tellement
les
bien.
Les moulineries, hein, pardon.
Non, c'est très bien, surtout que c'est du vénitien, ça.
Ah bah oui, complètement.
C'est pas de l'italien. Ouais.
C'est ça.
Donc vous êtes confié, mis en garde, un couple
oui,
de...
par un couple
bon,
de...
Bon, ils se débarrassent de vous, quoi, vos
de
parents.
De commerçants. Non, mes parents me disent, ben, on est au mois de mai, reste 3 mois là-bas, éclate-toi, prends de l'expérience à fond sur de la vente de petits objets en verre. Et j'y suis restée presque 2 ans. Donc,
et vous avez fait des études ?
Ah oui, ben, à la fin du mois d'août, quand il a fallu rentrer, j'étais inscrite à une école de commerce à Montpellier. Et j'y suis jamais allée. Je suis rentrée, j'ai dit à mes parents que je voulais pas, que je voulais vivre là-bas. Et donc, j'avais déjà regardé la fac d'architecture à Venise, qui me plaisait beaucoup. J'avais une étude, un bac S option bio, donc ça allait plutôt pas mal. Et l'avantage, c'est que j'ai été inscrite en candidat libre chez eux, à débouler dans un palais vénitien.
Oui, c'est assez somptueux, disons-le.
Non, et puis la fac était sur le Grand Canal, en face du vieux casino, donc on était plutôt très très bien, ouais.
Vous êtes fait votre Erasmus, à vous ?
Ben oui, c'est ce qui m'a coûté cher, puisque à la fin de la fin de la deuxième année, le doyen m'a informé que le diplôme, la bifurcation que j'avais prise sur le diplôme n'était pas valable en Europe, en dehors de l'Italie. Et donc, j'ai pas donné suite à ces études parce que je voulais encore me promener un petit peu.
Alors, où est-ce que vous allez vous promener ?
J'ai travaillé pour une franchise qui s'appelle Zoppini, qui est une marque de bijoux en acier, qui avait à peu près 300 magasins dans le monde et qui m'a demandé de gérer l'ouverture des franchises en Italie, en Suisse.
Ils vous ont demandé, il fallait qu'ils vous connaissent. Comment vous aviez
j'ai
bossé, à l'époque
j'ai,
vous aviez
j'ai fait
18
la
ans.
Saison d'été chez eux.
Voilà, 18-19 ans. Vous faites la saison d'été, ils vous disent, écoute, tu vas m'ouvrir toutes les franchises là comme ça.
Non, c'était juste les franchises en Suisse. Il y avait 4 magasins.
Donc, oui, parce que c'est quand même pas mal. D'où est venue cette confiance spontanée ?
Le chiffre d'affaires généré à Venise, peut-être. Non, et puis le fait que je parlais les trois langues principales, le suisse-allemand n'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais du coup, c'était vraiment une franchise qui était montée très fort en puissance en Italie. Et ils avaient très peu d'interlocuteurs qui faisaient la jonction avec l'anglais et avec le français. Donc là, ça a été une très grosse opportunité pour moi, du jour au lendemain, de partir là-bas. Et en plus, ils m'ont très, très bien formée à tout ce qui est étalagisme. Donc j'étais la responsable de leur vitrine sur les 2 années suivantes. Donc j'ai eu la chance de m'éclater chez eux vraiment beaucoup.
C'est quand même rare, non, comme proposition à l'âge que vous aviez, sans véritablement d'expérience. Parce que maintenant, on vous dit toujours, est-ce que vous avez de l'expérience ?
Non.
Alors comment vous avez réussi à forcer cette porte ? Vous pouvez peut-être donner vos recettes ?
Honnêtement, on attaquait le matin à 9h, on finissait à 2h du matin, 7 jours sur 7. L'Italie est un pays qui subit quelques déboires en ce moment, mais il les subissait déjà en 2007. Et clairement, ça a été, c'est à la volonté. Chez eux, c'est vraiment à la volonté. Dès qu'ils voient qu'il y a un élément qui tient la route, ils foncent là-dedans. Et j'ose espérer qu'ils ne se sont pas trompés. Donc,
Apparemment, non, ils ne se sont pas trompés. Mais... Alors, comment c'était la vie à Venise ?
Ah, c'était génial. J'habitais à Dolso Dulo, qui est là où vous avez la pointe du poisson avec les bateaux de croisière qui faisaient la fête. Et comme j'étais au deuxième étage, je voyais toutes les boîtes de nuit des bâtiments de Costa, de MSC, qui faisaient la fête.
Oui, ça,
avec
c'est
les
peut-être moins agréable à voir.
Si, non, c'est rigolo parce j'avais un parc juste au-dessus à la jonction entre l'immeuble que j'habitais. J'avais un petit parc qui était une zone totalement libre avec les enfants qui jouaient au ballon là-dedans. Et derrière, j'avais l'Orient Express qui était en nettoyage systématique sur une voie qui est en plein milieu de Venise. Et après, on a des bateaux et on tourne la tête de l'autre côté. On a les toits de Venise. Donc, c'est. Ouais, là-bas, c'est cool.
C'était vous avez été bien accepté par les Vénitiens ?
Ça a été très long, très, très, très long. Mais j'ai eu la chance de faire partie des hôtes de la Festa del Renentore, qui est au mois de juillet et qui ne fait venir les Vénitiens sur les bateaux. Et donc, j'ai été intronisée dans la caste vénitienne il y a 10 ans maintenant. Et j'y suis retournée cet été. Et ils m'ont remontée sur un bateau. Donc, c'était méga cool.
Vous n'avez pas oublié ?
Ah bah non.
La tornade.
Ah non, non, non.
La tornade, Célia Campion avait marqué.
C'est l'avantage des réseaux sociaux.
Ah oui, c'est vrai, nous viendrons. Vous êtes une grande, grande spécialiste des réseaux sociaux. Ah voilà.
Sinon, Célia, voilà. Vous voyez que je ne dors pas.
Oui, j'avais peur qu'Irene Finkel se soit endormie compte tenu de son âge, mais non.
Alors, j'ai une question, une simple curiosité. Vous étiez toujours à Chalon quand vous avez eu votre bac. Oui. Pourquoi l'inscription à la fac de Montpellier ? Parce que pas la porte à côté quand même.
Parce que c'était une HEC, que j'avais envie d'aller là-bas. Je voulais partir dans le commerce au départ.
Et donc, il n'y avait pas plus proche.
C'était soit Montpellier, soit Paris, si je me souviens bien.
Il n'y avait pas plus proche de la mer, à mon avis, c'est ça ?
Non, c'était même pas. Non, ça a été un choix sur dossier. C'est un système assez compliqué après la terminale. Il faut qu'on choisisse pas mal d'établissements. Et je voulais partir en commerce. Donc, ça a été.
Le dossier avait été accepté sur Montpellier.
Oui, c'est ça.
D'accord. Alors, quand je regarde votre CV, parce que j'ai un CV de 2 pages extrêmement bien rempli, donc il fait mal la tête quand on est arrivé au bout.
Ça fait longtemps que je n'avais pas fait mon CV, Jacques.
Oui, mais bon, là, vous avez bien fait, parce qu'il est bien, bien plein. Vous avez des formations, je ne les ai même pas comptées, il y a une quinzaine de formations peut-être, mais surtout dans le bâtiment. C'est les Italiens là, qui vous ont mis le pied à l'étrier du bâtiment?
Alors, les Italiens m'ont piqué au vif avec le bâtiment, en l'occurrence l'architecture, et je suis partie tout de suite en branche de l'urbanisme, en histoire de l'art. Donc c'était juste génial. On avait vraiment des notions d'histoire médiévale de la ville. Il fallait retomber dans les archives. J'ai fait le tronc commun de la première année. Et après, je suis vraiment partie sur quelque chose qui était historique et passionnant. Et c'est cette formation-là que je ne pouvais pas valider ailleurs qu'en Italie.
Enfin, de l'histoire de l'art, par exemple, à la formation, j'en prends une au hasard, hein, formation en mortier industriel, par exemple, c'est un peu loin quand même.
Ben, la formation mortier industriel est arrivée suite à l'opportunité de travailler pour une boîte espagnole. Quand j'étais employée à l'époque à l'aéroport de Blagnac, où je gérais les zones duty-free de l'aéroport de Blagnac. Et j'ai accueilli pendant cette période un monsieur fort sympathique qui avait récupéré la direction générale France d'un établissement espagnol qui fabriquait des mortiers, du ciment, du béton. Et donc j'avais le badge de l'aéroport et je devais chaperonner cette personne pendant une semaine. Donc moi j'avais 50 données nettes à gérer sur l'aéroport et j'étais en responsable shop supervisor de responsable des magasins. Et j'ai passé une semaine avec ce monsieur, ça s'est super bien passé. 2 ans après, il m'a rappelé pour me demander ce que je faisais et si j'étais disponible pour bosser avec lui. Donc c'est encore une opportunité.
Finalement, vous marquez tout le monde, c'est ça.
C'est pas fait exprès, je vous assure.
Formation vente, je vois, obtention du PET of Cambridge.
Oui.
Alors le PET, je ne sais pas ce que c'est.
C'est un diplôme d'anglais.
Ah voilà.
Rien de très glorieux.
Ah, ben, si, c'est très très bien. Formation d'expert bâtiment de corps d'État.
Oui, hein, ça c'est cette année.
Un peu plus jeune. Hein. Formation 5 jours pour entreprendre à la CCI de Toulouse. Alors, ils vous ont formé ou vous les avez formés à la CCI parce
Non,
que
on a discuté.
Oui, ça.
On a échangé.
Ouais, ils s'en souviennent encore, non?
Oui, non, c'était sympa, ils sont cool.
Alors, le commerce, vous l'avez toujours eu dans la peau?
C'est pas fait exprès.
Non?
Oui, je pense que je vendais des Barbies à mon père en échange de quelques trucs à la maison.
Donc vous êtes redoutable, il ne faut rien vous proposer. Hein, si
c'est ce qu'on dit de moi, en l'occurrence.
Irène?
Alors, la bosse du commerce, comme on dit, associée à une facilité évidente pour l'apprentissage des langues étrangères, c'est l'addition gagnante.
Ben, jusque-là...
Spécialement introverti, comme on peut le constater.
Oui, c'est un soleil. Ça, c'est évident.
Oui. Alors, tout ça vous a amené un jour à revenir à Toulouse. Pourquoi Toulouse?
Parce qu'un gros bidon, énorme.
Ah.
Un truc incroyable qui est sorti de moi. J'ai ma petite fille Kia, là, qui est née en 2009. Et j'habitais en Suisse à l'époque. Son papa est d'origine allemande, donc on a fait un Erasmus aussi à titre personnel. Hein. Et du coup...
Vous l'appelez quand même avec un prénom italien.
Ah, Chiara, oui. J'ai mis un K pour qu'on soit sûr de l'appeler Chiara en français, en francisé. Mais ma fille s'appelle Chiara, oui, c'est obligatoire. Et du coup, j'ai atterri à Toulouse parce que j'ai mes grands-parents qui habitent à l'Abbatie de Saint-Cernin, qui était un petit village toulousain et qui est le village de mes racines, puisque mes parents, entre-temps, étaient aussi allés se balader et partis en Thaïlande. Donc, je ne pouvais pas trop les rejoindre pour accoucher.
Quelle famille,
hein. Ouais, j'ai des parents formidables.
Ils sont où? Toujours en Thaïlande, d'ailleurs?
Et non, là, ils sont rentrés, ils se sont séparés. Donc, ils font leur petite vie, chacun de leur côté. Et comme ma fille est un rayon de soleil, ils sont dans le coin sur Toulouse.
Bon, comme sa mère, hein, on va le dire. Alors, vous rentrez à Toulouse et vous vous lancez dans le bâtiment. C'est quand même pas facile comme milieu, le bâtiment. Déjà, on va dire pour une femme, ça ne veut pas dire grand-chose à l'époque où on est, mais si, quand même, ça veut dire des choses.
C'était un poste de commerce avant tout.
Ouais. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que vous allez vendre?
Ah ben, je suis embauchée par une entreprise espagnole qui tente de percer le marché des mortiers industriels, groupe cimentier.
Alors, qu'est-ce que c'est un mortier industriel?
Ce sont tous les sacs qui se mélangent à l'eau. Donc, des enduits de façade, des colles à carrelage, des ragréages, des joints de carrelage, des enduits de façade.
C'est sexy tout ça à vendre.
Alors, moi, ça m'amuse beaucoup. Mais
entre le duty free de Blagnac, le verre de Murano, ouais. Et puis les mortiers, là, c'est quand
Mais
même...
là, j'ai eu la chance d'avoir un poste seul où je développais tout le quart sud-ouest de la France en itinérant.
Vous aviez quel âge à l'époque?
23.
Vous n'avez pas molli quand même. Hein.
Non, jamais.
C'est pas le genre de la maison, oui.
Et mon bureau était à Villafranca del Penedès, donc juste en dessous de Barcelone, puisque l'usine était là-bas. Et moi, j'étais en charge de développer les ventes de ces produits en France auprès des négoces de matériaux. Donc j'avais le catalogue des produits de la boutique, j'avais 140 ou 150 clients développés sur le secteur, et j'avais donc de Saintes à Montpellier en passant par Biarritz.
Vous parliez français, anglais et italien, mais espagnol aussi.
Eh ben non. Ah. Non, là, je vous avoue, je le comprends très, très bien. Le catalan, pas trop. Mais on avait le laboratoire d'analyse qui était à Malaga. Et je me débrouillais un petit peu avec leur zone là-bas. Mais non, je n'ai pas eu le temps de, j'ai pas pris le temps de l'apprendre.
D'accord.
Ça viendra. C'est pas
oui,
grave.
Ça, j'en doute pas une seconde.
Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez fait après les mortiers?
Après les mortiers, bah, j'ai surtout eu un gros constat, c'est que je développais les ventes d'un produit fort intéressant dans le monde du bâtiment dans le sud-ouest. Et j'habitais Toulouse et il n'y avait pas de point de vente qui développait ces produits sur Toulouse. Il fallait partir chez des négoces généralistes et chez des personnes qui ne s'intéressaient pas spécialement à l'aspect technique de la chose, mais plutôt, on va dire, plutôt sur l'aspect commercial et commerçant et des choses un peu différentes qui ne m'animent pas trop. Donc du coup, j'ai eu le projet, je suis allée voir un expert comptable et je lui ai dit, voilà, comment qu'on fait pour ouvrir une société ?
Est-ce bien raisonnable ? On va faire une petite pause, parce qu'il faut que les auditeurs là, se soufflent un peu hein,
pardon
dans cette
tout le monde.
Cavalcade.
Désolé.
On va faire une première pause musicale qui est de votre choix. Alors c'est une Danoise.
Oui.
Qui s'appelle Agnès Obel.
C'est exact.
Et qui chante, c'est vous qui allez le dire et pas moi.
C'est The Curse.
Agnès.
He didn't know exactly why. Winter came, made it so look alive, look alive. Underneath the grass would grow, aiming at the sky. Before the curse, you're a valley under.
Voilà, vous êtes bien sûr Esprit Occitanie, où nous retrouvons notre invitée Célia Campion. C'est la Campion qui a fait le choix de cette musicienne danoise, Agnès Obel, rappelons-le, parce que c'est tout à fait superbe. Et nous vous invitons à aller écouter Agnès Obel. Alors, on en était à votre parcours, on ne sait plus où on en est, parce que c'est quand même... Si, on sait très bien, on vous avait laissé dans cette aventure, là, agitée et bouillante, au moment où vous créez un commerce
de matériaux.
De matériaux à Toulouse.
C'est ça.
Et alors, à destination de qui? Les artisans
le... Et ben, c'était exactement le poste des clients que j'avais avant, donc un négoce ouvert à tout le monde pour pouvoir servir à ces personnes-là tous les mortiers que je connaissais et tous les produits du bâtiment. On était assez généralistes. J'avais très peu de place, donc je n'avais pas de gros produits, mais les clients étaient au courant, donc ce n'est pas trop grave. Et c'était pro et particulier.
Et donc tout le monde venait acheter. Alors comment ça s'est passé? Parce que c'est un milieu qui est très difficile dans le bâtiment. Bon, il y a des gens qui ont parfois quelques pratiques un peu particulières, disons-le.
Ah bon?
Hein, vous avez dû le remarquer, vous avez certainement été vacciné.
Oui,
c'était quand même particulièrement difficile.
Alors c'est difficile, mais je m'étais vraiment mis une barre de service extrêmement haute. Du coup, je pense qu'on leur a vraiment livré des prestations qui étaient au-dessus de tout ce qu'ils pouvaient avoir à côté. J'avais vraiment la volonté d'être dans l'accompagnement et le conseil technique, parce que j'avais cette antériorité des mortiers. Et donc, on faisait de l'accompagnement de clients, vraiment du début à la fin. Et on était à leur disposition pour toutes les demandes. Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de demandes.
Donc beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, comme vous savez en mettre.
6 jours sur 7, ouais. 7 heures. Donc, c'était une belle activité. J'ai démarré avec 4 murs, une porte sectionnelle et un chariot élévateur de 3,5 tonnes que j'ai appris à conduire.
Oui, parce que elle a le CACES. Hein, vous ne savez pas ce que c'est que le CACES, mais c'est le permis de conduire tous ces engins.
C'est le permis chariot.
Oui, le permis chariot. Elle a un permis chariot.
Voilà.
Hein, c'est une jeune femme moderne, jolie, toute jeunette. Elle a un permis chariot.
C'est ça.
Donc, qu'est-ce que vous en faites, ce permis chariot, d'ailleurs?
Eh bien, je gère mes palettes, je charge mes clients. Je suis quand même montée assez vite en puissance, donc il y avait quelques employés qui étaient là quand même, faut pas rigoler. C'était pas que sur ma personne.
Avec vos petits muscles, oui.
Oui, non, mais j'en ai soulevé quand même pas mal, les sacs. Hein. Mais l'avantage, c'est que j'ai réussi à développer ce vrai commerce en partenariat avec Jérôme, qui est mon cher et tendre dans la vie. Donc, je le remercie d'ailleurs s'il m'écoute.
Oui, j'espère qu'il écoute quand même.
Oui, t'as intérêt, oui.
Donc, vous l'avez esclavagisé, donc on a compris ça, oui.
Non, ça s'est bien passé. C'était un partenariat. Il faisait vraiment toute la gestion logistique et prise de commande. Et moi, je faisais la récupération des sous, des euros, quand on y arrivait, et la prise de commande, en l'occurrence.
Bon, ça, c'est une aventure dure, hein, je pense.
Oui.
Mais bon, qui aujourd'hui est terminée. Vous êtes passé à autre chose.
C'est ça.
Et vous avez déployé vos talents dans un domaine qui n'est absolument pas le bâtiment, bien qu'il puisse y avoir des gens du bâtiment. Vous êtes plongé à fond dans les réseaux, c'est ça?
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est un réseau, finalement?
Et ben, c'est tout simplement... C'est à mon avis un tas de gens qui sont soit un petit peu dans la solitude de leur travail et surtout de leur métier, soit des gens qui aiment la vie, qui aiment le monde, qui aiment bouger, qui aiment sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je pense que je fais plutôt partie de cette catégorie-là. J'adore bouger, j'adore rencontrer du monde, j'adore discuter, je crois que ça s'entend d'ailleurs.
Oui, t'es d'ailleurs sorti du studio, on a laissé le micro, on est parti. Les réseaux, ok, mais les gens, il faut qu'ils travaillent. La fête, c'est le soir. C'est pas tout à fait ça. Ce sont des réseaux professionnels auxquels vous intéressez.
Ah oui, non. Les réseaux que je fréquente sont des réseaux qui sont tous professionnels. D'ailleurs, celui que je développe l'est aussi. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour combattre la solitude du chef d'entreprise et aussi pour faire un levier de chiffre d'affaires. Clairement, ils sont tous en prospection.
Est-ce qu'on fait véritablement de la prospection dans ces réseaux?
Ah ben les autres, non, le mien, oui.
Ah voilà, oui. On sent qu'elle va nous le vendre à un moment ou à un autre.
Il arrive.
Nous y viendrons, mais doucement, doucement. Ne brusquons rien. Alors, vous êtes à la mêlée ouverte, on le sait. Vous êtes Rotary aussi. Oui. Alors, Rotary, vous avez une image un peu plus... De gens un peu plus mûrs que vous.
Ben, on est au Rotary d'Auzeville, qui est probablement le plus jeune de Toulouse, puisqu'on
Tout le monde est en Pampers.
Un âge moyen de 37 ans. Du coup, on est très fiers d'être des jeunes Rotariens, mais on développe des actions comme les papiers et mamies des autres réseaux, donc tout va bien.
Oui, et là, vous faites des affaires ?
Au Rotary ? Non. Oui. Non, non, c'est un club service. On fait du bien autour de nous, c'est pas pareil.
C'est quoi, vous faites du bien ensemble ou non ?
Non, non plus, non. Non, non, pas pour l'instant, mais non, on fait surtout des actions communes pour tout ce qui est banque alimentaire, organisation d'événements caritatifs avec récupération, surtout d'euros pour pouvoir les reverser. Là, je suis sur une action qui est sur le premier vendredi du mois de juin et on reverse l'intégralité de ce qu'on récupère à l'INSERM. Et à un professeur qui est le professeur Mass, que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc on sait ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait.
Et qu'est-ce qu'il fait le professeur Mass ?
Il est gastro-entérologue pour les enfants. Et donc il est en pleine recherche sur des maladies terribles qui touchent les nouveau-nés qui ont un système digestif atroce. Et donc il tente de les sauver au quotidien. Et nous, par notre petite action, on lui ramène cette année, on lui a fait un chèque de 10 000 euros. Donc on était super contents.
Oui, c'est déjà très beau.
Super content.
Bravo au Rotary Club d'Auzeville, Rotary Club juvénile.
Et de Toulouse.
Juvénile, disons-le. Après, vous avez vous-même créé un réseau.
C'est ça.
Alors, est-ce que c'est une activité professionnelle que d'animer un réseau ?
Alors, ça, c'est de l'associatif, puisque le vrai réseau, le groupe de la mort qui tue, comme il s'appelle.
Ah, ça, c'est un nom. Il fallait le trouver. Comment on l'avait trouvé, celui-là ?
C'est ça. C'est avant tout un rassemblement de copains au départ. Donc, on a pris l'habitude de manger ensemble une fois par mois, un midi. Et quand on s'est rendu compte qu'on était 80 à manger, on s'est peut-être dit qu'il fallait solliciter la création d'une association qui tienne la route. Et comme le groupe de la mort qui tue avait ce nom-là déjà sur Facebook, est-ce qu'on s'était amusé à en jouer, on a décidé d'aller jusqu'au bout de la chose et de l'appeler comme ça.
Donc maintenant, il y a une institution, il y a un cadre juridique.
C'est ça.
Mais est-ce que ça rapporte pour autant ?
La vocation de cette association, c'est uniquement de rassembler des professionnels autour d'un repas à leur convenance, parce qu'avant c'était une fois par mois, maintenant il y a un peu plus de dates, on fait 8 dates le mois prochain.
Et ils vont devenir obèses là s'ils mangent.
Non, on s'est étendu surtout. Ah. Là, il y a du Castres, du Albi, Auch, Montauban, Cahors, Saverdin, c'est moi qui ai un petit peu tramé la région, enfin le démarrage de la région. Et l'unique but de cette association, c'est de rassembler des pros qui tuent, qui font appel à notre association pour venir manger, combattre un peu la solitude et faire un peu de réseau, c'est-à-dire se présenter, se faire des copains, pas donner ses cartes de visite à plus savoir quoi en faire, et puis surtout discuter de la vie tranquillement et avoir une autre approche du réseau.
Oui, mais ça, c'est lié à Campion. Il y a plein de réseaux qui le font, il y en a partout. Est-ce qu'il n'y en a pas trop ? Est-ce que trop de réseaux ne tue pas le réseau aujourd'hui ?
La première ville de France en termes de réseau. Donc, un jour, on m'a dit, si tu arrives à en développer un à Toulouse, c'est que tu arrives à en développer un qui peut avoir une envergure nationale. Et comme j'ai quelques envies, je me suis dit, allons-y, pourquoi pas.
Et vous pensez que ça va prendre ? Alors, ça va, mettons que ça prenne au niveau national, qu'est-ce que ça rapporte de créer ce type de réseau ?
Alors,
faut en vivre, vous en vivez de ça aujourd'hui ?
Oui,
c'est
parce
votre
que
job.
Le réseau est adossé à une plateforme. Cette plateforme est un espace d'échange d'informations. Et ces informations sont...
dans les data, alors.
Oui, c'est ça. Là, je me transforme en informaticienne, mais je vous rassure, je comprends rien à ce que je dis. Mais clairement, la plateforme récupère des informations qui sont postées par n'importe qui s'appellent des infos qui tuent. Chaque personne peut poster cette info qui tue, elle lui est affiliée. Et dès l'instant où l'information arrive dans la plateforme, ce sont des modérateurs humains à Toulouse qui la récupèrent. On la valorise. Quand je dis « on », c'est moi pour l'instant, mais on va avoir une super équipe dans pas très longtemps.
Oui, on le sent. On le sent.
Et cette équipe redispatche cette information à un pro qui tue qui est adhérent à l'association.
Donc, ça veut une information, c'est quoi, par exemple ?
Ma voisine cherche à vendre sa voiture. Je souhaite, on peut aussi poster sa propre information, c'est-à-dire je viens d'acheter un bien et il me faut une assurance habitation pour mon appartement ou j'ai des travaux à faire. Ou...
Il y a quelques sites qui font ça aussi, on ne va pas leur faire de la pub. Mais...
Alors ces sites-là récupèrent ces informations, ne les valorisent pas, ne les qualifient pas.
Qu'est-ce que vous appelez valoriser ?
Valoriser, c'est tout simplement la lire, lui donner un peu de substance humaine. C'est se rendre compte sur quel code postal aller, se rendre compte si l'appartement est au 8e ou s'il est au rez-de-chaussée, et pouvoir donner des informations aux professionnels qui récupèrent l'info, quand même beaucoup plus sérieuse et valable que des sites que je nommerais concurrents, mais qui sont surtout des sites de récupération de leads. Le lead, c'est vraiment un nom, un numéro de téléphone, une adresse mail et une phrase qui dit bah, « tiens, j'ai besoin de ci ou de ça ». Nous, on va vraiment chercher à la valoriser, que le professionnel qui récupère le fait qu'il y a quelqu'un qui veut vendre sa voiture, bah, sache qu'il a un budget de 5 à 7 000 euros, qu'il aimerait bien une voiture bleue et qu'en plus, il habite à Tournefeuille, par exemple. Et ça, c'est mon job, c'est mon entreprise qui fait ça et qui va donc contacter le pro qui est adhérent à l'association, qui s'est engagé à être quelqu'un de bien, parce que j'y tiens beaucoup. Et ce pro va...
Ça veut dire quoi, quelqu'un de bien ?
Ben, on a une charte éthique qui a été rédigée.
Ah, une charte éthique, qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Et la charte éthique indique et indiquera, puisqu'on va la modifier incessamment sous peu, que l'adhérent à l'association s'engage à répondre au téléphone à ses clients, à être quelqu'un de bien, à ne pas avoir de mauvaises recommandations, à avoir une attitude positive vis-à-vis de toutes les infos qu'on peut lui donner et à être quelqu'un de bien, tout simplement.
C'est un réseau moral, alors ?
Ben, j'aimerais bien, oui. J'aimerais bien que ça devienne quelque chose de sympa et de valorisant pour tout le monde.
Et ça marche ?
Pour écrire
Irène,
oui.
Qui s'empare sauvagement de la parole.
Oui, bah avec vous, Jacques, il faut pouvoir savoir s'imposer.
Vous êtes une professionnelle, ma chère.
N'est-ce pas ? Pour pouvoir indiquer une vente, par exemple, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, moi, je suis la voisine et c'est moi qui vends ma voiture. Est-ce que je peux, moi, sans être adhérente, l'indiquer sur la plateforme?
Oui.
Ne sont adhérents que les professionnels qui vont récupérer l'info?
Oui, c'est ça.
Et après, les autres peuvent indiquer...
En fait, tout le monde peut poster une information. Vraiment, des profils de pros, des profils de particuliers. On a même eu la question de savoir comment est-ce qu'on faisait si on était élu. Donc, on a même trouvé la solution en disant que vous avez la possibilité de récupérer vos cagnottes, puisqu'il y a des cagnottes qui sont en jeu, et de les céder à des associations. Donc, on a vraiment fait un modèle économique qui est un cercle vertueux. C'est-à-dire que vous postez une information, je la valorise et je la qualifie. L'information est envoyée à un professionnel qui s'est quand même aussi engagé à rétrocéder de l'apport d'affaires. Donc moi, mon outil, ma plateforme, n'est vraiment qu'une interface digitale à tout ça. Et donc je gère des lignes, des numéros de téléphone, et c'est un petit peu pas très humain, quoi. C'est pas génial.
Vous mettez les gens en contact, c'est
ça ? Je mets les gens en contact,
oui. Vous faites le go-between, comme disent
c'est
les
ça.
Gens qui
je
parlent
fais
bien.
Je fais du go-between, et l'avantage, c'est que la personne qui a posté l'info sur ma plateforme sait que si l'affaire va au bout, il va être rémunéré sur cette affaire qu'il a donnée.
En fait, c'est un site de rencontre, mais pour professionnels.
C'est un site de rencontre, c'est une agence matrimoniale de professionnels.
D'accord.
On ne fait que des affaires. Et alors, on est rémunéré pour les annonces que l'on met, pour les affaires que l'on réalise.
C'est ça.
Ça fonctionne comment, ça, les sous ?
En fait,
parlez-nous des sous.
Alors, les sous,
c'est ça qui nous
quand
intéresse,
même le nerf de la guerre.
Hein, oui.
Les sous, c'est tout simple. Un professionnel qui a travaillé grâce à la plateforme va rétrocéder un pourcentage de son chiffre d'affaires, qui est différent en fonction de chaque professionnel. Ça, c'est moi qui l'ai voulu, puisqu'on a tous des métiers différents, on a tous des montants de charges différentes. Donc, le pro qui est adhérent à l'association s'engage à rétrocéder de l'apport d'affaires. Dès l'instant où une affaire est signée grâce au groupe et grâce à la plateforme, cette personne va intégrer son apport d'affaires sur la plateforme, donc sur mon entreprise. Et moi, en tant que Célia, je rétrocède 50% du chiffre d'affaires à la personne qui a posté l'info, parce que sans elle, j'aurais jamais eu l'info, donc j'aurais jamais travaillé.
Donc vous faites part à deux, quoi, c'est ça ?
C'est ça.
Par contre, Célia, on sait, on le voit sur tous les sites qui existent, il y a des gens qui mettent n'importe quoi, histoire de mettre quelque chose. Est-ce que vous vérifiez toutes les informations ?
Ça a été l'un des gros points qu'on a pris le temps de gérer sur l'étude de marché. Les informations des autres, entre guillemets, plateformes, sont très peu valorisées et très peu intéressantes. Donc, nous, ce qui se passe, c'est qu'on la valorise, on la lit, on va contacter la personne en disant bah, « Tiens, c'est un peu léger, est-ce que tu peux pas nous en dire plus ?» On va avoir des statistiques, c'est-à-dire que quelqu'un qui a posté des infos qui mènent jamais nulle part va être gentiment amené à être sensibilisé au fait que ce serait mieux. Et surtout, le professionnel n'a pas accès à l'info tant que nous, on n'a pas donné le feu vert. Donc j'ai envie de dire, on sait qu'on va être inondé d'informations. On l'attend, on est là pour ça. Et ensuite, bah, les bonnes feront du chiffre et donc feront des cagnottes pour toutes les personnes qui postent.
Et ça nécessite un appareil logiciel important ?
Non, il faut juste avoir accès au site internet groupedelamortquitue.fr.
Donc voilà, on va sur groupedelamortquitue.fr. Voilà,
et ça peut être des demandes dans n'importe quel domaine.
Ça peut être des demandes dans n'importe quel domaine. On sait répondre. Attention, bah là, ce n'est pas possible. Là, vous avez une profession qui a l'interdiction de rétrocéder de l'apport d'affaires. Il y en a, ça existe. Et par contre, on prévient à chaque fois la personne avec un message qui est totalement personnalisé en lui disant bah, « Tiens, ça ne peut pas se faire pour telle et telle raison ». Tout comme si le professionnel a eu une information qui lui a été donnée et qu'il n'a pas réussi à avoir le client au téléphone parce qu'il bah, n'a pas réussi, on va le notifier. Il y aura toujours un fil. Et c'est cette grosse entité informatique qui me permet de développer vraiment un fil entre le donneur d'information qui va, à la fin, juste donner l'info. Il a après... son information est une ligne avec une couleur et rien d'autre. Il ne sait pas qui a été affilié, comment ni pourquoi.
Alors votre intérêt, si je comprends bien aussi pour la plateforme, c'est de vous faire connaître du plus grand nombre de chefs d'entreprise. Comment c'est vous ça. Faites pour cela ? Vous les démarchez ? Comment ça se passe ?
Eh ben, ce sont les repas qui tuent qui prennent le relais.
D'accord.
C'est pour ça qu'il y a l'association. J'ai vraiment voulu mêler le digital et le physique. Parce que y a beaucoup de plateformes digitales qui se cassent la figure, parce qu'on n'a pas de substance, on n'a pas l'impression de rencontrer des gens. Moi, clairement, si vous allez tous sur le site et que vous écrivez à Célia en bas à droite sur le chat, c'est mon téléphone qui sonne et c'est moi qui vous réponds. Donc aujourd'hui, c'est une toute petite entité, c'est quelque chose qui est c'est même plus du test, c'est une première version. Et on est en train de l'user et de l'utiliser avec tous les réseaux sociaux et la publicité entre guillemets que je fais via tous ces réseaux. On a naturellement une inertie de professionnels qui toquent à la porte en disant bah, tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien en être. D'accord. Puisque zéro contrainte.
Et zéro blabla aussi, non ?
Non, bah non, ça non, je peux pas. Je suis obligée de leur parler.
Célia Campion, si je vous dis Dun Dun Manza, qu'est-ce que vous me dites ? Elle ne me dit rien. C'est la première fois que je la vois rester sans parole. Et ben c'est un groupe qui chante cette chanson. C'est un groupe qui s'appelle Sierra Maestra. C'est un groupe cubain qui a été fondé dans les années 70 et qui joue des instruments traditionnels. Alors, vous avez amené au Danemark. Moi, je vais vous amener à Cuba.
Enfin, Célia, dans les années 70, elle était loin d'être née aussi.
Oui, mais ce qui n'était pas votre cas, ma chère Irène, vous le savez.
Merci.
Étant précisé que la Sierra Maestra, je profite quand même pour le dire, c'est une chaîne montagneuse. Et dans cette chaîne montagneuse, c'est un lieu de guérilla et de refuge de Fidel Castro et de ses barbudos à l'époque. Voilà, une musique ensoleillée pour le moins, hein, de l'autre bout de la terre, les Barbudos de Fidel Castro. Non, ce n'était pas eux qui chantaient quand même. Vous êtes toujours sur Occitanie Première, c'est Cap Cap, avec notre invitée d'aujourd'hui, Célia Campion, la réseauteuse championne, c'est ça, hein, un peu ?
C'est toujours ça, oui.
Oui, c'est toujours. Bon, dites-moi, vous faites énormément de choses, mais vous avez le temps de vivre avec tout ça quand même ?
Je la croque par les deux bouts, oui, j'ai totalement le temps de vivre.
Vous m'avez dit, je dors pas la nuit.
Non, je suis malheureusement victime d'insomnie, puisque c'est vraiment le terme victime, c'est l'horreur, on a l'impression d'être enfermé à l'intérieur de nous-mêmes. Mais je travaille énormément et je lâche rien. Donc quand j'ai une to-do list qui me dit que j'ai 4 heures de travail et qu'il est minuit, eh ben, je termine à 4 heures. Puisque le lendemain est déjà rempli avec l'agenda, donc... Je suis un peu exigeante avec moi-même.
Et on arrive à tenir, oui.
On fait aller. On mange beaucoup de guronzan, ouais. ça c'est sûr.
C'est là que devient votre excitation naturelle.
Non, mais après, voilà, je prends aussi le temps de me reposer quand j'ai 2 minutes.
Vous faites du sport ?
Je fais du horseball, oui.
Passion des chevaux ? Ah, mais Irène ne connaît pas le horseball, mais il faut dire que...
Irène n'est pas sportive. Oui, merci Jacques. Qu'est-ce que c'est le
horseball, c'est un sport où on joue à 4 cavaliers contre 4 sur un terrain de 70 mètres par 30 et qui a un petit peu les règles du basket dans les actions. Et donc, on doit aller marquer des buts qui sont à 3,50 mètres de hauteur. C'est un grand cercle blanc et on a une balle de foot qui est insérée dans des anses en cuir. Et donc, on joue au ballon sur nos chevaux.
Voilà, donc il faut beaucoup de rapidité, beaucoup de souplesse, toute chose que vous n'avez pas, Irène. Et il faut également des chevaux. Il faut des chevaux qui soient adaptés, qui sont souvent des chevaux plutôt argentins, dit-on. Mais on peut le faire avec d'autres chevaux.
Hein. Là, j'ai une anglo. Ça dépend surtout de l'état d'esprit du cheval. C'est un réel partenariat.
Souvent, quand même, les professionnels changent plusieurs fois de cheval au milieu de la partie.
Ah non, nous, non. C'est pour ça que...
Vous en avez qu'un, donc il est à moitié crevé quand vous avez fini.
Match de 2x10, 2x10 minutes.
Donc c'est quand même assez dense. Est-ce que ça vous vide de votre énergie ?
Oui. Bah,
le guron s'en ressort ?
Oui, c'est bon. Il y a pas mal d'entraînements par semaine en plus, donc ça va.
Mais il faut de la place, il faut un terrain, il faut...
Eh bien, je monte dans des écuries qui sont non pas spécialisées, mais qui ont tout l'équipement et surtout tous les autres copains pour jouer avec moi, puisqu'on est quand même une équipe. Et donc c'est du côté de Montaigu-sur-Save, là-bas. Et j'y vais tous les mardis soirs pour l'entraînement de horseball et également le samedi, puisque ma fille monte aussi à cheval là-bas. Donc, on fait des cours ensemble avec mon petit bout de chou, là.
Et j'ai cru voir que vous faisiez un peu de golf aussi.
Alors, le golf, c'est surtout la petite, parce que moi, je suis une catastrophe au golf. Mais j'en fais.
Il y en a d'autres autour de cette table. Je regarde l'ami Majid Salah qui est là. Donc, je plaisante. Majid est un fin joueur, nous le savons, mais qui peut s'énerver parfois sur un parcours.
Ah ben non, mais non, je ne suis pas forte du tout. Je ne suis pas golfeuse pour un sou. J'adore ça, je le regarde, je le suis, je le vis au travers de ma fille. Et quand je prends un club, c'est uniquement sur un practice.
Pourquoi la petite a voulu faire du golf ? C'est rare chez des enfants, ce souhait.
Mais parce que les parents de Jérôme sont golfeurs et qu'ils l'ont emmenée toute petite là-bas et que ça s'est super bien passé. Et comme elle a pas mal d'énergie à dépenser aussi, ça lui va bien de marcher ses 6 km le samedi matin.
Bon, avec cette énergie, ce Jérôme dont vous nous parlez beaucoup doit être un garçon complètement épuisé ou alors il est extrêmement calme pour faire le pendant.
Il est vaillant.
Il doit être vaillant, oui. Je veux bien le croire. Voilà, Irène aussi. Je ne sais pas comment elle a entendu ce terme vaillant, cette Irène, vous savez. Donc, voilà. Non, mais c'est
insupportable.
C'est très bien. À part ça, le cinéma, le théâtre, la cuisine, c'est votre truc ?
Ah, la cuisine, oui.
Oui.
Beaucoup.
Vous, italienne, vénitienne.
J'adore ça. Oui. Et puis les inspirations italiennes, dans tous les cas.
Allez, un plat, dites-nous, là, faites-nous saliver, ça va être l'heure.
Je pense que mes amis pourront vous en parler.
Oui, mais on aimerait plutôt avoir une expérience directe, mais enfin, bon.
Il faudrait que je vous en ramène, mais je mets 4 heures à les faire, donc il faut vraiment qu'il y ait.
Là, une nuit d'insomnie.
Oui.
Et l'architecture, la déco, c'est pas quelque chose qui vous branche. L'architecture d'intérieur, ça vous a pas.
Je suis toujours. On va dire que l'avantage, par exemple, quand j'avais le négoce de matériaux, on s'amusait à donner des inspirations, à regarder des livres, à essayer de regarder ce qui se fait un peu actuellement. Mais j'aurais pu me former, mais ça faisait une ligne de plus sur le CV.
Oui, il y avait déjà plus de place. Là, il faut dire ce qui est. Je n'ai pas dit tout ce que vous savez faire. Parce que j'avais peur que les auditeurs ne nous croient pas, pour être exact.
Eh ben voilà.
Hein, mais vous êtes un puits de science, si je vois toutes les formations et les expériences que vous avez faites.
Bon, après, ce sont des petites formations, hein. Ça reste quelque chose de non-diplômant, puisqu'on me l'a bien dit quand je suis arrivée en France, mais voilà.
Bon, est-ce que vous prenez le temps de lire ?
Eh ben, c'est l'objet de mon choix d'aujourd'hui.
Et de notre séquence littéraire,
c'est
oui.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que vous avez choisi ? Bon, un livre qui se rapporte un peu à ce qu'on a dit un peu avant.
Oui.
Et qui s'appelle ?
C'est Les Chevaliers de M. Joseph Kessel.
Alors, je dis pour les auditeurs, ce n'est pas que Les Chevaliers du Fiel. Hein, qui
les Cavaliers, excuse-moi, oui. Ce n'est pas Les Chevaliers.
Sinon, c'est Les Chevaliers du Fiel à Toulouse.
Je me suis tellement concentrée.
Voilà, voilà, elle a beaucoup travaillé. Alors, Les Cavaliers, mais on avait rectifié. Les Cavaliers de Kessel. Alors, c'est un livre qui parle de quoi ?
Du bouscachy. Du bouscachy,
qui n'est pas un plat vénitien, le bouscachy.
Qui est l'ancêtre du horseball, l'ancêtre afghan du horseball. Et c'est surtout un roman hyper dynamique aussi, puisque c'est une épopée au travers de l'Afghanistan. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, donc on va dire que c'est un petit peu le premier qui m'est venu à l'idée. Sinon, c'était Le Management pour les nuls, du coup, c'était moins sympa, quoi.
Oui, je préfère Kessel, quand même. Alors, moi, je vais vous parler de quelque chose qui va vous parler, justement. Ça a été fait par un certain Jiro Taniguchi. Est-ce que vous connaissez Jiro Taniguchi ?
De partir du côté asiatique. Là,
absolument, ouais. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvé. Bravo, Célia. C'est un célèbre auteur japonais de manga et qui a réalisé un livre à l'aquarelle pour Casterman. Alors, l'histoire, c'est ça. C'est un homme qui arpente Venise.
Hein, oui.
Très, très beau livre. Je l'ai eu il y a 10 jours. Qui arpente Venise. Mais alors, lui, il va aller hors des sentiers touristiques et sur les traces de son histoire familiale, puisque son grand-père a vécu à Venise et il le recherche dans Venise. Donc, il flâne, il se perd le long des canaux, il parcourt les ruelles et les quais, il s'arrête pour observer. Et tout cela est très, très finement dessiné à l'aquarelle. C'est superbe. Et alors, à mesure que les brumes du passé se dissipent dans cette histoire, bien, c'est une nouvelle cartographie de la sérénissime qui va se dessiner, une cartographie ou une sérénissime contemplative, intrigante, majestueuse, intime. Et c'est vraiment un magnifique ouvrage qui est intitulé tout simplement Venise.
Venise, ouais,
voilà, donc Venise, Jiro Taniguchi chez Casterman. Et puis aussi une annonce, vous connaissez l'excellent hebdomadaire Le 1. Alors si vous ne le connaissez pas, découvrez-le très vite. Et si vous aimez, bien abonnez-vous à ce journal. Il semblerait qu'il soit un peu racketté par le distributeur Prestalis, vous savez, celui qui distribue la presse, là, qui a des fois des politiques très, très personnelles. Et la façon dont il gère la distribution du 1, qui est déjà un journal qui a près de 3 ans, peuvent faire craindre pour sa survie. Alors, il faut le soutenir, d'abord le lire, parce que c'est extrêmement original, c'est extrêmement bien fait. C'est surprenant, même au départ, pour sa forme, et très, très rapidement, très attachant, on ne peut plus s'en passer. Donc, abonnez-vous et contournant Prestalis, dont les pratiques commerciales me semblent pour le moins, on va dire, curieuses pour l'instant, pour ne pas dire autre chose. Alors, l'actualité, vous la suivez un peu, Célia ?
Non ? Ben, radio, oui, beaucoup.
Oui. Qu'est-ce qui vous fait réfléchir dans cette actualité? Bon, alors, on a parlé de l'Italie, refaisons un petit tour. Il y a eu les élections italiennes,
on sait
ce qui s'est passé. La Ligue, qui s'appelait autrefois du Nord, qui ne s'appelle plus que la Ligue et qui correspond à peu près globalement au Front National, est arrivée quand même en tête, même devant le tristement célèbre Berlusconi, ce qui a dû quand même le faire tomber de sa chaise roulante, et parce qu'il est quand même d'un âge canonique. Et puis à côté, nous avons des gens qui ont été élus, qui sont des populistes absolus, le mouvement 5 étoiles de Pepe Grillo. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que ça va être un sacré bazar.
Oui, c'est surtout le président de la République. Là, il va devoir désigner quelqu'un pour faire un gouvernement. On va faire des combinations pour pouvoir s'allier.
Honnêtement, ce n'est pas qu'il ne s'y attendait pas, mais ce n'était pas tant prévu que ça dans ce sens-là. Et j'ai un petit peu peur de la suite des événements, puisqu'il y a toujours la fracture du Nord et du Sud qui est toujours vraiment réelle.
Ils n'ont pas parlé d'ailleurs. On a beaucoup parlé du Nord, on n'a pas parlé du Sud. On a valorisé ce qui se fait dans le Nord, mais pas dans le Sud, parce qu'il se fait de très belles choses aussi dans le Sud, disons-le.
Mais là, moi, je suis abonnée à La République, hein, et je lis un petit peu ce qu'ils racontent. Et clairement, c'est l'Italie, quoi. On est dans un monde de non-dits, on est dans un monde d'omerta, on ne sait pas trop ce qui se passe.
Qui n'a pas dépassé certaines époques qui étaient de triste mémoire aussi. Hein, on n'a pas vraiment oublié Mussolini parfois. Il y a des vieux relents qui remontent. Et l'Europe n'est pas venue, comme elle n'est pas venue d'ailleurs au secours de la Grèce, n'est pas venue au secours de l'Italie sur les migrants. On les a simplement laissés, disons-le, se démerder.
Oui.
Et je crois qu'on va peut-être en payer le prix. C'est un pays très europhile qui est devenu aujourd'hui très europhobe.
Ben là, ça fait un peu peur, oui. Enfin, clairement, j'ai la chance d'avoir encore mes amis à Venise.
Et qu'est-ce qu'ils en disent, eux ?
Ils sont scandalisés par le manque de soutien évident de l'Europe, clairement. Et en plus, ce sont des commerçants, ce sont des taxis, ce sont des gondoliers, ce sont des personnes filales.
Enfin, plutôt des gondoliers, parce que des taxis, il n'y en a pas beaucoup à Venise.
Si, le taxi-bateau.
Le taxi-bateau, alors, oui. On ne parle que des gondoliers, qui sont les personnes les plus riches de Venise.
C'est
certainement,
ça,
ils ont un niveau de oui, voilà, ils ont un niveau de revenu. Bah, ils baladent les Chinois, c'est bien fait pour les Chinois.
C'est ça. Mais oui, non, là-bas, malgré le fait qu'ils soient un petit peu dans une parenthèse, un petit peu comme Macao et Hong Kong, clairement, là-bas, ils sont un peu morts de trouille. Hein. Ça va. Le
pays n'avait pas vraiment besoin de ça aujourd'hui, c'est sûr.
Non, surtout qu'il leur fallait plutôt des échanges et plutôt essayer de trouver une dynamique avec tout ce qui se passe, quoi. Je veux dire, on ne peut pas rester les yeux fermés à dire non, mais ça va passer à côté.
Et le groupe de la mort qui tue, on peut le voir un jour à Milan, à Rome, à Venise, bien sûr.
Ce sera probablement le premier pays que je développerai après la France.
Mais vous y pensez ?
Si, pourquoi pas.
Comment on dit le groupe de la mort qui tue en Italie ?
Il gruppo della morte che uccide, sarebbe questo.
Esatto.
Je changerai probablement de nom pour la
fin. Oui, je crois qu'il vaut mieux. Oui. C'est votre prochaine aventure, ça, alors ?
Pourquoi pas ?
Donc, moi, si je retiens deux mots, c'est quand même que. Enfin, trois, on va dire, pour moi. Célia, c'est être responsable.
Oui.
Vous aimez être responsable. Vous êtes une compétitrice.
Oui.
Puis vous aimez bien diriger, prendre les choses à bras le corps et les faire avancer.
J'aime pas les feignants, on va dire ça comme ça.
Alors, la prochaine aventure, ça va être quoi ? Parce que vous ne restez pas trop dans le même créneau, là. Vous allez développer la mort qui tue, on a compris, le réseau.
On va développer ça, et c'est un gros développement, puisqu'il faut que je m'en occupe très, très, très sérieusement. Et donc là, j'ai vraiment un business model qui me correspond, puisque j'ai l'impression, par les tout petits moyens que je peux être, de faire le bien autour de moi. Du coup, ça, c'est quand même pas mal. Et je vais me focaliser là-dessus, parce que je n'ai pas l'impression d'être prise pour une andouille et que ça a l'air de fonctionner.
Oui. Ce n'est pas vraiment ce à quoi on pense quand on vous voit, quand on vous entend et surtout quand on voit vos résultats. Quand est-ce qu'on part à Venise tous les deux, Célia ?
On va en parler à Jérôme d'abord.
Oui, mais bon, il fera marcher la plateforme. Bien, merci Célia, c'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique toujours aux manettes Jean-Loup Arzac. Merci Jean-Loup. La semaine prochaine, je recevrai une autre dame. Peut-être plus posée, parce qu'elle est dans un style très différent, mais qui se donne beaucoup aussi. Elle s'appelle Rachida Lucaso, elle est conseillère régionale. Vous la connaissez peut-être, Célia. On parlera de politique, on parlera de notre région Occitanie, on parlera du Parti Socialiste, au bout de ce qu'il en reste, et de bien d'autres choses encore. Vous pourrez retrouver cette émission, ainsi que toutes les autres, sur la page Facebook de l'émission Occitanie Première, ou Esprit Occitanie, comme vous voulez, ainsi que sur le site de la station. N'oubliez pas, rediffusion de l'émission demain, mardi matin, 11h midi, qu'on se le dise. Bonne semaine à toutes et à tous. Adieu.